102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'Union communiste libertaire, l'UCL. Vous le disais, 102.2, la plus rebelle des radios, Radio Canu. Et comme tous les mercredis soirs, et ben c'est l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de Lyon, de l'Union communiste libertaire, l'UCL. L'UCL que vous pouvez d'ailleurs retrouver à la librairie La Plume Noire, dont on vous rappelle, librairie libertaire, autogérée par les militantes et militants de l'UCL sur les pentes de la Croix-Rousse, à quelques centaines de mètres de Radio Canu, aux 8 rues d'Hydreau, sur le haut des pentes, près de la place Colbert. Et librairie La Plume Noire, qui est ouverte et qui vous accueille le mercredi de 17h30 à 19h30, ainsi que le samedi de 15h à 19h, sauf cas de mobilisation sociale ou de manifestation qui fait qu'on recule l'heure d'ouverture bien souvent pour aller battre le pavé. En tout cas, n'hésitez pas à passer à La Plume Noire, rencontrer les militantes et militants de l'UCL et y trouver toute la littérature en livres, brochures, tracts, revues libertaires et anarchistes que vous souhaitez. Voilà, c'était un petit rappel toujours utile en ce début d'émission Idées Noires. Et puis bien sûr, on va commencer par nos traditionnels annonces et rendez-vous. Traditionnel annonces et rendez-vous avec, bien évidemment, comme point d'orgue, ce qui va se passer après-demain. Après-demain, vendredi, c'est le 8 mars. Et le 8 mars, contrairement à ce qu'on nous rabâche bien souvent, c'est pas la journée des femmes, mais c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et ça, c'est extrêmement différent. Et en cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, eh ben, y a de nombreux rendez-vous à Lyon. Bien sûr, la traditionnelle manifestation, une grève féministe, et puis aussi des rendez-vous de solidarité.
De solidarité et un peu festif aussi, puisque à l'occasion donc de la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, comme tu viens de le dire, et dont on va pas mal parler aujourd'hui, c'est le retour de la disco-vente aux enchères des Dynastites. Les Dynastites, c'est un collectif féministe de passionnés de musique et d'activistes de la fête, comme elles se présentent elles-mêmes. Et elles organisent donc une vente aux enchères de vinyle. On peut trouver d'ailleurs de jolies pépites niveau disque. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre une enchère sur un disque que vous n'aimez pas, au hasard Michel Sardou, hein, et le détruire sous les acclamations du public. Et donc, en plus de dénicher des perles ou de détruire du Sardou, vous contribuerez à une bonne action, puisque l'intégralité des recettes de la vente sera reversée au planning familial 69. Il y aura aussi une vente du livre « Lire et dire le désir » en partenariat avec la librairie Rive Gauche. Et les droits du livre seront également reversés au planning familial 69. Ça se passe au Live Station, donc 14 rue Bonald dans le 7e. Ça commence à 20h30 et ça se termine vers 1h du matin. Vous pouvez même arriver un peu plus tôt pour profiter de l'happy hour, mais n'oubliez pas de réserver une table sur le site du Live Station pour être sûr d'avoir une place. Perso, bah, j'y suis déjà allé, hein, ces soirées, l'ambiance est dingue, on s'amuse beaucoup et en plus, c'est au profit du planning, donc pour ce 8 mars, vous savez comment remplir votre soirée de grève après la manif. Le lendemain, le 9 mars, à l'illégalité, il y aura une journée de rencontre sur les luttes des femmes exilées. C'est en mémoire de Blessing Matthews. Blessing Matthews, c'est une femme nigériane décédée en 2018. Elle s'est noyée dans la Durance alors qu'elle était traquée par la police et tentée de rejoindre Briançon. Une journée de rencontre donc sur le thème de la lutte des femmes exilées contre les frontières, contre le racisme d'État, pour le droit au logement et pour des papiers pour toutes et tous. Au programme, à partir de 14h, projection, une discussion autour du meurtre de Blessing Matthews en présence d'une chercheuse ayant participé à l'enquête suite à son décès. À 16h, un goûter. À 17h, une discussion autour des luttes des femmes exilées face aux violences de l'État en présence du collectif Solidarité entre femmes à la rue de Lyon, la cantine des femmes battantes de Paris, l'atelier des femmes fortes de Montpellier. À 19h30, cantine de soutien au collectif entre femmes à la rue. Et à partir de 21h, un DJ set de Mimi Génial. Pendant toute la journée, il y aura aussi des activités pour les enfants, des affiches à prix libre ou encore des tables d'infos tenues par les collectifs en lutte. Et l'argent collecté aussi là, tout au long de cette journée, sera reversé au collectif, donc Solidarité entre femmes à la rue. C'est samedi 9 à l'Illégalité à Villeurbanne à partir de 14h. Et si après le DJ set de Mimi Génial, vous voulez prolonger la soirée, vous pourrez enchaîner avec la soirée rituelle au Grand Zéro. Encore des DJ sets à partir de 21h avec Lady Shadow, Merci Bonsoir, Almevan, 13-12 BPM ou encore Supreme Cactus. Avant ça, dès 18h, il y aura une exhibition de boxe par Boxe Populaire Croix-Rousse et à 19h, un open mic hip-hop avec les mineurs isolés. C'est d'ailleurs au profit des mineurs isolés de Lyon. Voilà, donc ce sera samedi au Grand Zéro à partir de 18h.
Ce samedi 9 mars. On vous le disait, oui. Le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Traditionnellement, il y a manifestations partout dans le monde, en tout cas dans de très nombreuses villes. Cette année, c'est un peu une première, parce qu'alors qu'on était habitué à la traditionnelle manifestation revendicative organisée par le CDL, droit des femmes en fin de journée, et ben à l'image de ce qui s'est déroulé depuis déjà plusieurs années en Argentine mais aussi en Espagne, cette année c'est une première en France. Il y a un appel intersyndical large à faire de ce 8 mars une journée de grève féministe afin d'ancrer davantage la question féministe dans les préoccupations sociales, salariales et syndicales et montrer toute l'exploitation que peuvent subir les femmes au travail, comme dans l'espace domestique et l'espace privé, et justement, par leur absence, par leur grève, de faire entendre encore plus leurs revendications. D'où le fait que ce vendredi 8 mars, à Lyon, la manifestation, elle n'aura pas lieu en fin de journée, mais elle aura lieu à 14h, place Jean Masset, dans le 7e arrondissement. Voilà. Pour faire comprendre que quand les femmes décident de se croiser les bras, en tout cas pour ne plus travailler, pour ne plus assurer toutes les tâches qui pèsent sur leurs épaules et sur leur dos, le monde s'arrête elles peuvent aller défiler, manifester pour revendiquer, pour défendre leurs droits dans de très nombreux domaines. D'où cette journée de grève interprofessionnelle qui couvre tous les salariés, du privé comme du public, qui couvre bien sûr les femmes, mais aussi les hommes qui sont solidaires avec ces revendications féministes. Et donc on vous appelle tous et toutes à se rendre à cette manifestation à Lyon ce vendredi 8 mars à 14h, place Jean Masset, dans laquelle d'ailleurs notre organisation, l'Union Communiste Libertaire, défilera. Vous nous reconnaîtrez sous nos drapeaux noirs et rouges et noirs et violets pour l'occasion, bien évidemment. Vous pouvez même venir un peu plus tôt, puisque dès 12h30, place Jean Masset, il y aura pour celles et ceux qui le souhaitent un pique-nique féministe qui sera organisé, ainsi qu'un atelier pancarte afin de rendre vivante, visible et revendicative cette manifestation du 8 mars. Voilà donc gros rendez-vous que ce 8 mars. Pour la première fois, on espère que cette manifestation sur un temps habituellement de travail sera une réussite, que cette journée de grève sera une réussite, parce qu'exploitées au travail, exploitées à la maison comme dans les entreprises, les femmes vont se mettre en grève ce 8 mars et elles ont bien raison. On le sait, Rémi, tu reviendras tout à l'heure, je crois, sur 10 bonnes raisons de se mettre en grève en cette raison du 8 mars. Mais on peut rappeler qu'aujourd'hui, le contexte y justifie encore une fois plus que largement cette mobilisation du 8 mars. D'une part parce qu'à la maison, comme dans les entreprises, eh ben les femmes elles sont souvent sous-payées, déconsidérées, précarisées, mais elles occupent bien souvent des emplois à forte pénibilité, des emplois qui sont, on le sait, dans le secteur de l'aide aux personnes, dans le secteur du ménage, de la restauration, qui sont pourtant essentiels à la société. On sait que les faibles salaires qui pèsent sur les femmes pénalisent bien souvent, d'autant plus qu'ils entraînent un fort décalage au moment de la retraite, qui a été d'ailleurs aggravé par la réforme des retraites de 2023. Et puis on sait que la pauvreté, la précarité, elle touche encore plus en particulier celles qui sont mères célibataires, celles qui sont handicapées, celles qui sont sans papiers, celles qui sont racisées, celles qui sont trans, lesbiennes, bi et intersexes. Et que cette pauvreté et cette précarité, pour toutes les femmes, elle les rend bien souvent, plus souvent dépendantes d'un père, d'un mari, d'un patron harceleur, agresseur, tueur, et que ces situations de fragilité, de domination, elles pèsent aujourd'hui encore énormément sur les femmes, et que l'égalité salariale et la revalorisation des secteurs dits féminisés, c'est des urgences féministes qui justifient bien une grève et bien plus encore. En tout cas, on sait que si cette situation elle existe dans le monde du travail, l'exploitation elle s'arrête pas à la porte de la maison, que ce qu'on appelle le travail reproductif pèse très lourdement sur les épaules des femmes. C'est les tâches domestiques, c'est les activités qui sont autant de travail nécessaire au fonctionnement de la société et qui entraînent bien souvent une charge mentale, mais aussi un éloignement de la sphère publique de nombreuses femmes, et ce, bien sûr, au profit des hommes, au profit des patrons et de l'État. Et par la grève qui va être menée ce vendredi 8 mars, les femmes vont pouvoir montrer que le monde ne peut pas tourner sans elles, et que leur reconnaissance, que ce soit dans l'espace domestique ou dans l'espace salarié, il est indispensable. Et puis cette mobilisation du 8 mars, si bien sûr elle met en lumière ce qu'on vient de dire sur l'exploitation des femmes dans le monde salarial comme dans l'espace privé, dans l'espace domestique, Il se déroule malheureusement dans un contexte qui est celui d'un monde et d'une période fortement réactionnaire, où le fascisme et le racisme pullulent chaque jour un peu plus. On l'a vu, on en a souvent parlé sur cette antenne, c'est le cas de la loi immigration par exemple, dont les conséquences sont terribles pour les populations immigrées et particulièrement pour les femmes. Mais c'est aussi le retour des idées ou le développement des idées masculinistes qui restent fortement implantées, voire même malheureusement qui augmentent chez les plus jeunes. C'est les attaques contre les femmes de Mayotte par exemple, on a parlé Rémi, la fermeture de maternité, on a parlé sur cette antenne, les politiques de stérilisation, la suppression du droit du sol, et des mesures qui vont de pair avec la promotion au plus haut de l'État d'un modèle hétéronormatif qui est systématiquement valorisé. Alors, à travers l'emploi aujourd'hui du terme de réarmement démographique, le président de la République Macron a tout simplement renvoyé les femmes à leur fonction reproductrice, mais pas seulement. Le gouvernement énonce aussi entre les lignes qu'il faut à la fois limiter l'immigration et qu'il faut soutenir la reproduction des femmes blanches et des familles hétérosexuelles françaises. Ces offensives réactionnaires, elles visent en fait également toutes celles qui dérogent au modèle patriarcal, les trans, les lesbiennes, et on sait que chaque attaque contre ces femmes, ces minorités de genre, ces minorités de sexe, chaque attaque contre elles, c'est une attaque plus générale contre l'ensemble des femmes, et que c'est pour ça qu'il faut être solidaire et qu'il faut apporter une réponse collective face à toutes ces attaques-là. Et puis enfin, ce 8 mars, malheureusement, il s'exprime une fois de plus et il justifie cette mobilisation dans le contexte qui est celui des guerres qui ont lieu en Ukraine, des guerres qui ont lieu en Palestine, des guerres qui s'accompagnent systématiquement de viols, de destruction des systèmes de santé, de déplacements forcés, et des situations où on sait où les femmes et les enfants sont les premières victimes des guerres, que ce soit les Palestiniennes sous les bombes israéliennes, les Iraniennes contre la dictature, ou alors les femmes du Rojava pour une société révolutionnaire, ici ou ailleurs, et ben ces femmes, elles luttent pour la vie, elles luttent pour la liberté, et on peut être que solidaire de leur combat, et on peut espérer que ce 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, elle fera, il fera résonner les revendications et les combats qui sont portés par ces femmes. De notre côté, on peut bien sûr que dénoncer les crimes de guerre, les viols de guerre, quels que soient les bourreaux qui sont bien trop souvent institués comme armes de guerre. On peut dénoncer les combats des unes qui nourrissent ceux des autres, et on peut que militer très concrètement aujourd'hui pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, pour la libération des centaines d'otages israéliens, israéliennes et de toutes les palestiniennes détenues illégalement et torturées dans les prisons israéliennes. La sororité, elle ne doit pas avoir de frontières, bien au contraire, elle doit être capable de traverser les frontières. C'est pour ça qu'à l'UCL, à l'Union communiste libertaire, notre féminisme, il est bien sûr libertaire. Notre lutte, elle est aussi antifasciste, internationaliste et anticapitaliste. Et qu'il faudrait aujourd'hui, encore une fois, mettre en exemple les féministes en Argentine en lutte qui disent « nous faisons grève, nous mettons en pratique le monde dans lequel nous désirons vivre et nous pourrons, à l'occasion de ce 8 mars, nous militants libertaires, antifascistes et féministes, apporter des revendications immédiates et très concrètes. Ces revendications immédiates et très concrètes, par exemple, c'est tout simplement l'égalité salariale contre les 29% de salaire en moins qui est imposé aux femmes et les pensions inférieures à 40% à celles des hommes aujourd'hui. C'est bien sûr le partage du temps de travail par sa baisse généralisée. C'est le financement à la hauteur nécessaire et pérenne des centres de planning familiaux et des associations de soutien aux femmes victimes de violences. C'est l'avortement accessible, libre et gratuit, ainsi que la PMA pour toutes. On en reparlera tout à l'heure. La constitutionnalisation de l'IVG en ce début de semaine est certes symboliquement une avancée et un progrès, mais c'est aussi un arbre qui cache la forêt d'une application concrète et d'une mise en œuvre de ce droit bien trop souvent, bien trop difficile. On pourra revendiquer aussi à l'occasion de ce 8 mars l'accès au parcours de transition libre, gratuit et inconditionnel. Et puis bien sûr, la régularisation de toutes. Voilà ces revendications qui pourraient être portées à l'occasion de ce 8 mars. C'est pour ça que l'Union communiste libertaire sera dans la rue. On espère qu'on sera nombreux et nombreuses en grève ce 8 mars, nombreuses et nombreux dans la rue. Et je crois que tout simplement, Rémi, qu'il y a 10 bonnes raisons de faire la grève encore une fois ce 8 mars.
Et oui, si vous n'êtes toujours pas convaincu, les super féministes, un groupe de militantes du Planning 69 a publié sur son blog 10 bonnes raisons de faire grève ce vendredi, 10 bonnes raisons de venir, de soutenir la lutte, de faire entendre votre voix, et je vais vous les énumérer rapidement. La première, c'est pour arrêter le travail épuisant que les femmes fournissent tous les jours, souvent pas peu ou mal payées, pour mesurer aussi leur force, comment fonctionne le système sans elles, pour se retrouver entre féministes et crier ensemble, avec le plus de cordes vocales possible, leur rage contre le patriarcat, contre le gouvernement, contre la loi immigration, contre le racisme et le fascisme qui gangrène Lyon et toute la société. Pour faire pareil aussi, voire mieux qu'en Espagne, qu'en Suisse, que dans une bonne partie de l'Amérique latine, où la lutte permet d'arracher plus de droits, plus de moyens contre les violences sexistes et sexuelles, et fait reculer le patriarcat. Pour aussi fêter la constitutionnalisation de l'IVG, parce que les victoires partielles sont rares, mais elles sont délicieuses. Pour crier leur colère, elles qui occupent les postes de travail les plus flexibles et précaires. Pour continuer à lutter contre ce système qui les discrimine constamment, que ce soit dans la réforme des retraites, la pension de reversion, la question des droits familiaux, car elles savent qu'un horizon féministe est un horizon qui réduit le temps de travail pour tous et toutes. Pour concrétiser aussi l'alliance entre syndicalisme et féminisme, parce que ce 8 mars 2024 est historique en France, avec une unité inédite dans l'appel et la préparation de cette mobilisation. Pour se rappeler et commémorer, depuis la première mobilisation du 8 mars en 1911, soit 66 ans avant celle institutionnalisée par les Nations Unies, que de nombreuses femmes et minorités de genre de tous les pays ont combattu ce système pour pouvoir exister, vivre et ne plus se soumettre au patriarcat. Et enfin, parce qu'il y a des caisses de grève, notamment la caisse de grève féministe à Lyon, pour aider à compenser la perte de salaire de cette journée. Et à ce sujet, vous pouvez écrire à l'AG Retraite Féministe, qui est issue du mouvement social de 2019-2020, à l'adresse agféministelyon, tout attaché, @riseup.net pour en bénéficier ou avoir des infos. Voilà, donc je vous invite aussi au passage à jeter un œil sur le blog de temps en temps des superféministes. On y trouve plein d'articles intéressants. Et l'adresse, c'est superféministe.blogspot.com.
Et on vous le rappelle, vendredi, en grève, dans la rue, 14h, place Jean Massais, pour cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Bien évidemment, première pause musicale dans cette émission Idées Noires, on ne pouvait que retrouver cet hymne qui va certainement être entonné dans la rue vendredi, dans très nombreuses langues et dans très nombreuses villes du monde, cet hymne qui est tout simplement l'hymne des femmes sur l'air du Chant des Marais.
Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
Debout, l'hymne des femmes, bien sûr, de ce chant traditionnel de lutte qui résonnera ce 8 mars, on l'a dit, dans la rue, dans de très nombreuses villes de France et d'ailleurs, dans le monde, dans d'autres langues. On vous le rappelle, grève féministe ce vendredi 8 mars et manifestation à 14h, place Jean Massais. Allez, on va continuer cette émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'Union communiste libertaire, l'UCL, avec un ennemi des femmes, justement.
Oui, on en parle un peu trop souvent de l'extrême droite, mais ce soir on revient dessus parce qu'à Marseille, le week-end dernier, c'est un grand rassemblement antifasciste qui s'est organisé alors que dans la même ville, ce même week-end, se tenait un meeting du RN, un meeting de lancement de la campagne pour les élections européennes. Et ce rassemblement antifasciste, au final, c'était un beau rassemblement puisque 34 organisations étaient présentes. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont participé avec une manif partie de la Belle de Mai pour rejoindre le cortège de la manif en soutien au peuple palestinien vers la porte d'Aix, et ainsi que des discussions table ronde. Parmi les organisations présentes, on peut citer l'Antifa Social Club Marseille, Attaque Marseille, le collectif Anticra Marseille, le NPA 13, Solidaire étudiante ex-Marseille, plein de Sud solidaires en fait, les jeunesses antifascistes ex-Oises, les soulèvements de la terre, la CNTSO, et bien évidemment l'UCL. Et durant la table ronde, nos camarades de l'UCL ont tenu à rappeler à quel point le fascisme est opportuniste, rappeler aussi que ses arguments sont ceux du libéralisme le plus crasse et le plus violent, le tout vaguement saupoudré de propositions sociales qui ne sont qu'une arnaque. Une arnaque dont les plus précaires, les plus pauvres, les plus démunis feront les frais. Quelques exemples, les députés RN ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation et contre l'encadrement des salaires. Ils ont même pour plan de ruiner la sécu en proposant la baisse des cotisations patronales. Concernant l'inflation, le RN s'oppose au blocage des prix sur les produits de première nécessité, s'oppose aussi à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Et pour la crise du logement, ces députés protègent les bailleurs et les rentiers. Ils s'opposent au gel des loyers, aux hébergements d'urgence et à la construction de logements sociaux tout en proposant de restreindre leur attribution aux seuls Français. Le RN, c'est aussi un marchepied pour l'ultra-libéralisme, déjà avec la privatisation dès la crèche, des crèches ou des cantines, avec la diminution des dotations aux écoles publiques et aux activités culturelles, et avec son opposition à la gratuité de la cantine pour les familles les plus pauvres. Le RN préfère effectivement financer la répression plutôt que l'accès aux services publics, en stigmatisant par exemple la minorité musulmane. On peut citer par exemple le port obligatoire à la cantine, l'interdiction des jupes longues et j'en passe. Le RN s'en prend aussi aux syndicats qui font obstacle à son projet de préférence nationale, puisque les syndicats défendent toutes les travailleuses et tous les travailleurs, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau. Et surtout, le RN veut détruire tout ce qui nous protège de l'avidité du patronat. Il est contre la réduction du temps de travail, contre l'ISF, enfin l'impôt sur la richesse, ISF ou IFI. Et il est contre aussi l'égalité salariale homme-femme, vu qu'il préférerait voir les mères rester au foyer. Par contre, il est pour le fait de réduire les droits des chômeuses et des chômeurs, parce que le programme est là, travail, famille, patrie. Le travail, c'est pour crever pour leur profit. La famille, c'est surtout la natalité des femmes blanches, des femmes au foyer, et donc la justification du patriarcat et des valeurs viriles du mâle tout-puissant. Et pour la patrie, le RN appelle à une remigration des étrangers, des Français d'origine maghrébine ou subsaharienne. Et si ces idées vous semblent étonnamment familières, c'est parce qu'elles sont communes aux différents gouvernements sous Macron, et puis aussi du gouvernement d'avant, et celui encore d'avant. Bientôt 30 ans que la classe politique court derrière le RN-FN et tente de le déborder sur sa droite. Le RN a donc réussi à redorer son image. Il n'est plus en dehors de ce qu'on appelle dans la presse ou à la télé l'arc républicain. Un arc qui serait soi-disant le seul repère de ce qui est acceptable ou non, mais un arc qui est tracé par ceux qui sont déjà au pouvoir politique comme médiatique. Il est donc important de ne pas oublier que le FN est une arnaque sociale, et ça tombe bien parce que c'est justement le titre d'un article qui est paru sur notre site hier. Il reprend les différents points qui montrent bien que le RN, c'est toujours le FN, c'est toujours un parti héritier du vieux Le Pen et d'anciens nazis, un parti qui se fout bien du peuple. Pour preuve, comme on l'a déjà dit, les députés RN ont voté contre l'augmentation du pouvoir d'achat de manière générale. Le RN ne propose que la baisse des cotisations patronales, ce qui a pour effet de ruiner la sécu, et aussi la défiscalisation des heures sup, donc nous faire bosser plus en exonérant le patronat. En pleine inflation, le RN s'oppose au blocage sur les prix de première nécessité, et alors que la précarité étudiante explose et que beaucoup dépendent de l'aide alimentaire, le RN s'est opposé à une garantie d'autonomie de 1063 euros par mois aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux apprentis non rattachés au foyer fiscal de leurs parents. On peut également voir maintenant, avec le recul de quelques années, le bilan des municipalités RN. Et là, pas de surprise, ces élus démolissent les services publics, qu'ils soient éducatifs ou culturels. Alors certes, le RN promet des baisses d'impôts, mais des baisses d'impôts qui serviront à démolir toujours plus les services publics de proximité. Et le résultat, c'est que tout le monde va en pâtir. Au niveau européen, on constate aussi les dégâts. Les députés RN refusent l'harmonisation des droits sociaux. Ils refusent aussi une réglementation commune contre l'évasion fiscale. Et ça, évidemment, ça favorise les riches et ça met les salariés de tous les pays européens en concurrence. Le RN a donc beau faire semblant de soutenir certaines revendications des salariés, il défend en réalité un abaissement des normes sociales et environnementales. Environnementales, parce qu'on voit bien qu'il est... en faveur du libéralisme économique et surtout, ça a sauté aux yeux avec les révoltes paysannes. Il soutient l'agriculture productiviste. On peut citer notamment les votes des députés RN en faveur de la politique agricole commune et pour les traités de libre-échange européens. Son discours localiste et identitaire ne sert qu'à justifier une vision raciste et xénophobe du monde. Et c'est sans compter qu'il défend aussi des projets polluants, comme par exemple les OGM, le nucléaire, les énergies fossiles, le tout au détriment de la santé de notre classe et de l'avenir de la planète. Voilà donc pour résumer un peu l'arnaque que représente le FN. N'hésitez pas à aller voir l'article sur notre site unioncommunistelibertaire.org, histoire de magasiner quelques arguments pour la prochaine fois où vous dînerez avec votre tonton raciste ou que vous croiserez votre voisin misogyne dans l'escalier. Et pour finir, comme le conclut l'article, c'est en luttant pour nos droits sociaux et par la solidarité antiraciste entre les travailleuses et travailleurs que nous ferons reculer l'extrême droite.
Puis puisqu'on parle de l'extrême droite, on va en profiter pour rendre hommage à notre façon, une fois de plus, à ceux qui hier ont lutté les armes à la main contre l'extrême droite, quelle qu'elle soit, et dénoncer les fossoyeurs de la mémoire qui, il y a une dizaine de jours, ont fait un grand show médiatique. Bien sûr, je veux parler de l'État, du gouvernement français, et le 21 février dernier, jour pour jour, de leur assassinat au Mont Valérien, l'entrée au Panthéon, la panthéonisation de l'immigré Missak Manouchian et de sa compagne Mélinée, et les références à leurs camarades de la FTP Moy, les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, dit de l'affiche rouge. On peut se poser franchement la question de savoir pour quelles raisons faudrait-il se féliciter de la panthéonisation de Manoukian et de ses camarades. En quoi aujourd'hui le fait de descendre 80 ans jour pour jour après donc son assassinat par les nazis dans la crypte sombre et sans âme du Panthéon pour y rejoindre nombre de grands hommes qui étaient infréquentables de leur vivant représente un intérêt quelconque pour les militants antifascistes et internationalistes? Les idéaux d'émancipation que Missak Manoukian et tous ses camarades, tous les membres de son groupe ont porté, en fait, n'ont rien à voir avec les pompes de l'Empire et de la République qui sont enterrées au Panthéon, et même parfois ils sont radicalement opposés. On pourra rappeler que Missak Manoukian et ses camarades ont été pourchassés et traqués par la police française, par la police de Vichy, mais avant l'armée allemande, que c'est la police française, que c'est la police de Vichy, composée de brigades spéciales, mais aussi de simples fonctionnaires de police qui les ont traqués, qui les ont arrêtés, qui les ont torturés et qui les ont livrés aux nazis. Quel écho ça fait aujourd'hui par rapport aux violences policières? Tout ça, ça avait lieu certes dans le Paris de l'occupation, mais c'est bien l'appareil d'État français qui s'est abattu sur ces combattants internationalistes et antifascistes. On peut rappeler que Missak Manoukian et ses camarades de la FTP Moy faisaient partie des rares survivants à résister les armes à la main contre le fascisme, à une répression qui avait été inimaginable durant l'hiver 42-43. Avant-guerre, d'ailleurs, ils avaient aussi déjà été pourchassés comme immigrés clandestins par la police de la Troisième République, qui en avait fait des apatrides et qui avait refusé d'ailleurs à plusieurs reprises de régulariser la plupart d'entre eux, de leur donner à accorder le droit d'asile ou voir la nationalité française, comme Missak Manoukian, orphelin pourtant rescapé du génocide arménien de 1915. Et aujourd'hui, du coup, à travers cet éclairage, ensevelir Manoukian et Mélinée dans la crypte du Panthéon, c'est un incroyable contresens, et c'est une double trahison qui est en fait l'œuvre de véritables fossoyeurs de la mémoire. C'est un cirque en fait mémoriel qui a été voulu par Emmanuel Macron et qui alimente avant toute chose des fantasmes cocardiens et une récupération de type chauvine à laquelle les intéressés, Mélinée, Missak et tous les membres du groupe dit de la Fierche Rouge ne sont plus en mesure de s'opposer et n'auraient certainement jamais cautionné. Cette cérémonie médiatique de récupération, elle est en fait organisée, on le sait et on l'a dit, par ceux-là même qui empile depuis des années des lois de plus en plus liberticides, des lois racistes qui vont à l'encontre des migrants. Si aujourd'hui Nissak et ses camarades débarquaient sur le territoire français, ils seraient bien évidemment encore une fois pourchassés, arrêtés, enfermés, expulsés, à l'image des conséquences de la loi raciste la plus récente qui a été votée avec les voix de l'extrême droite en décembre 2023 et qui fait un véritable droit à la préférence nationale. En tout cas, que ce soit cette loi anti-immigration, que ce soit la volonté de remise en cause du droit du sol sur l'île de Mayotte, dans l'archipel des Comores, de l'initiative même de ce gouvernement qui court après les fondamentaux du Rassemblement National, bah tout ça, ça nous prépare tout simplement à l'arrivée des fascistes au pouvoir. Toute chose contre laquelle les FTP, les partisans immigrés de la fiche rouge avaient combattu. Cette politique, en fait, délétère et funeste qui est menée aujourd'hui, elle est bien aux antipodes des combats internationalistes et antifascistes de Nissak Manoukian et de ses camarades de combat. On rappellera que les membres de la fiche rouge de ce groupe de FTP Moy, c'était des militants communistes, c'était des militants antifascistes, c'était des militants internationalistes, que s'ils se sont battus les armes à la main et que s'ils sont morts, ce n'était pas pour défendre la République libérale française, c'était pas pour rétablir pour la nation française, c'était bien sûr pour la démocratie, contre le nazisme, contre le gouvernement de Vichy, mais c'était parce qu'ils avaient un idéal qui dépassait les frontières nationales, c'est parce qu'ils étaient avant tout internationalistes, parce qu'ils portaient en eux un projet de société qui n'était pas celle d'une nation bourgeoise et libérale, mais qui était celle du communisme au sens large, et qu'ils avaient déjà... pour certains d'entre eux, expérimenter la lutte antifasciste par-delà les frontières, tel Boxoff, le juif hongrois, juif hongrois Boxoff, qui était allé se battre en Espagne, dans les brigades internationales, ou tout simplement Celestino Alfonso, qui faisait lui aussi partie de l'armée républicaine espagnole et antifasciste. Il s'était logique qu'il poursuive le combat ensuite en France, parce que le fascisme se combat partout, parce que leur idéal internationaliste et communiste n'avait pas de frontières, et que le combat devait se poursuivre en France. Autant de choses qui ont été passées sous silence, qui n'ont pas été évoquées par les fossoyeurs de la mémoire, qui ont voulu faire de l'entrée de Nissak et de Miliné Manoukian au Panthéon une des icônes nationales et républicaines, en effaçant une part entière des raisons pour lesquelles ils avaient combattu, et pourtant qui sont essentielles et qui, pour nous, doivent être aujourd'hui mises en avant. Et c'est cela qu'il faut retenir de ce combat. Ce combat des FTP Moy, c'est un combat internationaliste, c'est un combat pour le communisme au sens large, en tout cas pour une société plus juste, plus égalitaire, qu'ils portaient dans leur cœur et pour lesquels ils se sont battus en tant que partisans. Voilà, on voulait faire une petite mise au point par rapport à tout ça, parce que au-delà du respect énorme qu'il peut être porté à ces combattants, ces francs-tireurs partisans, et quelque part la flatterie qu'il peut y avoir de les voir être honorés, mis à la une des médias de toutes sortes et entrer au Panthéon, il ne faut pas oublier que c'est aussi là encore une manipulation politique d'un gouvernement qui est aux abois, d'un gouvernement qui a besoin de symboles pour redorer son image, alors qu'il alimente la peste brune jour après jour. Et il ne faut pas oublier le véritable sens du combat, qui était celui de ses partisans, de ses membres de la fiche rouge, à qui on va rendre hommage aussi à notre façon, en musique bien sûr, en retrouvant ce très beau texte, Strophe pour se souvenir de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré, et qui, dans cette deuxième pause musicale de cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire, va cette fois-ci nous être interprétée par Bernard Lavilliers.
La fiche rouge. Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et faisaient un effet de peur sur le passant. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient inscrit sur vos photos « Mort pour la France ». Les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, je meurs, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les larmes, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini pour nous, on est rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma mélinée ou mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. C'était 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre, à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
De retour sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission du groupe lyonnais de l'Union communiste libertaire. Et on continue cette émission qui a pour fil rouge évidemment la journée de grève du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, avec un retour sur la constitutionnalisation. Décidément, on a du mal avec ce mot ce soir, la constitutionnalisation de l'IVG.
Oui, on en parlait juste avant avec ce petit retour sur les fossoyeurs de la mémoire à l'occasion de l'entrée de Nissak et Méliné Manoukian au Panthéon. Des coups de com' auxquels la Macronie est en train de nous habituer, cette volonté du gouvernement de chercher des symboles pour se redorer la pilule et se redonner une image progressiste au moment où, on le sait, de la loi anti-immigration à autre, ils alimentent la peste brune chaque jour un peu plus. C'est un peu la même chose avec cette constitutionnalisation, encore une fois décidément, de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse, qui a été adoptée par le Parlement en ce début de semaine. Alors on sait bien sûr qu'à l'heure où partout dans le monde le droit à l'IVG est menacé, aux États-Unis, à Malte par exemple, est réduit ou voire même supprimé, cette constitutionnalisation...
Cette entrée dans la Constitution.
Voilà, cette entrée dans la Constitution. Constitue quand même quelque chose d'important, une avancée, un symbole fort et un pas important pour garantir un droit essentiel pour le droit des femmes. Mais comme je disais, c'est aussi l'action d'un gouvernement qui est aux abois et qui se sert de cette lutte pour redorer son blason. Mais si quelque part il se tourne vers cette question pour le faire, c'est également un signe du rapport de force qui a su être instauré dans la société par les féministes et qui a été mis en place par le féminisme de longues luttes depuis des générations. Et on peut que saluer, dans un premier temps, le travail acharné des militantes dans les organisations féministes qui ont porté et défendu ce projet et qui dénoncent aussi en même temps l'instrumentalisation et la langue de bois du gouvernement. Alors, c'est un symbole fort, important, dont on peut se féliciter, mais c'est aussi un symbole, comme on pourrait dire, qui est l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce symbole de l'entrée dans la Constitution, ça passe tout de suite mieux en effet, de l'interruption volontaire de grossesse, eh ben, il sert à masquer le manque de moyens abyssal, bien souvent, qui est alloué au respect du droit à l'interruption volontaire de grossesse sur le terrain. On sait que selon sa situation géographique, pour une femme, et puis selon aussi sa situation sociale, bien sûr, pour une femme, avorter peut souvent être le parcours du combattant, et on peut rencontrer de grandes difficultés pour faire ces démarches dans les délais légaux, que en raison notamment du démantèlement de l'hôpital public, où se fait pourtant la moitié des IVG pratiquées aujourd'hui en France. On pourra rappeler qu'il y a quand même, en raison aussi de la fermeture de 130 centres de CIVG, centres d'interruption volontaire de grossesse, au cours des 15 dernières années, et puis ou encore à cause du maintien de la fameuse clause de conscience qui permet toujours aux médecins de refuser un acte médical et qui est un obstacle parmi tant d'autres, parmi tous les obstacles matériels que rencontrent déjà les femmes. D'ailleurs, on peut se poser cette question, c'est quand même assez surprenant qu'on maintienne une clause de conscience à un droit qui est soi-disant constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le droit, par clause de conscience, de finalement pas respecter la Constitution. Il y a quelque chose qui quelque part tourne pas rond dans cette histoire. Je croyais que la loi était indivisible, comme le dit justement un des premiers articles de la Constitution, que les principes de la République sont d'être démocratique, laïque, sociale et indivisible. Donc la loi serait censée, la loi constitutionnelle s'appliquer à toutes et tous. Mais non, il y en a qui peuvent encore faire valoir une clause de conscience pour ne pas accorder ce droit essentiel aux femmes, au droit de disposer de leur corps, de leur désir ou non de grossesse et de leur souhait ou pas de poursuivre celle-ci. En tout cas, inscrire l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté dans la Constitution, comme une liberté fondamentale et non pas comme un droit fondamental, a aussi été un enjeu et une déception qui n'a pas été un progrès. Parce que en droit engage l'État à garantir l'accès effectif à celui-ci, en l'occurrence à l'interruption volontaire de grossesse dans la pratique, notamment par la mise en place de moyens financiers, alors que la liberté, elle est plutôt sélective. Les riches pourront continuer de l'exercer, même quand le service public de la santé et de la sécurité sociale, par exemple, seront démantelés, mais ça ne sera pas forcément la même chose pour toutes. Il aurait peut-être été plus important d'intégrer dans la Constitution l'IVG comme un droit fondamental et non pas comme une liberté fondamentale, comme l'ont pointé bien souvent les militantes féministes. En tout cas, la formulation qui a été retenue n'empêche pas, par exemple, une future loi de restreindre tout simplement les conditions d'accès à l'IVG. La liberté sera toujours là, mais par contre, les conditions d'accès ne seront plus forcément accessibles à toutes. De plus, ce droit aujourd'hui, on le voit, il n'est pas réellement protégé. On peut rappeler que ces entraves qu'on a déjà citées, elles se perpétuent et elles s'aggravent dans un contexte où le gouvernement aujourd'hui, et plus particulièrement Macron, le président de la République, nous enjoint à ce fameux réarmement démographique dont on a déjà parlé tout à l'heure. On sait que la militarisation de la société et la marche vers la guerre réelle ou en tout cas fantasmée qu'il agite systématiquement coïncide avec le projet de réassigner les femmes à la reproduction et que le droit des femmes ne seront jamais garantis sous le capitalisme, car le corps des femmes sera toujours une variable d'ajustement pour le capital et pour ces fantasmes guerriers. On peut rappeler aussi que dans le même temps, on en a parlé aussi tout à l'heure, le colonialisme français, le néocolonialisme français s'assure toujours le contrôle des femmes colonisées. C'est le cas par exemple de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé de Mayotte, qui invite, on peut mettre des guillemets à ce mot invite, depuis déjà plus d'un an, les jeunes femmes comoriennes et mahoraises qui viennent s'installer à Mayotte à se faire ligaturer les trompes pour réduire le nombre de naissances sur cette île. Alors, certes, c'est un beau symbole que cette entrée dans la Constitution du droit à l'IVG, c'est quelque chose, un pas en avant pour la défense, pour le droit des femmes, mais on voit que c'est un arbre aussi qui masque la forêt et qu'il faut être vigilant pour maintenir dans les faits et concrètement l'exercice de ce droit, que pendant que les macronistes jouent aux féministes une fois dans l'année, dans le même temps, l'extrême droite, elle continue sa propagande, que la chaîne réactionnaire, par exemple, de Vincent Bolloré, CNews, a qualifié récemment l'avortement de première cause de mortalité dans le monde, assimilant les avortés à des meurtrières, ce qui est quand même assez incroyable. Comment peut-on prendre en compte des taux de mortalité de gens qui n'existent pas et qui ne sont pas nés? Ça a pas plus choqué que ça, et c'est quand même incroyable qu'une chaîne de télé puisse se permettre de tenir de tels propos. En tout cas, le droit à l'avortement, il doit être défendu constamment. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été arraché par la lutte. C'est par la lutte féministe massive que, encore aujourd'hui, nous garantirons son respect, sans s'en remettre pour autant aux institutions de l'État bourgeois et libéral. C'est un combat quotidien qui s'inscrit dans le combat général des femmes contre l'exploitation au travail, qu'il soit travail salarié ou travail domestique. C'est un combat quotidien contre la peste brune, contre les relents réactionnaires et de l'extrême droite qui systématiquement veulent remettre en cause le droit des femmes. Et bien évidemment, cette défense du droit à l'IVG, il va aussi faire écho à cette journée du 8 mars dont on a parlé depuis le début de cette émission. Ce 8 mars, à l'occasion de cette grève féministe, de nombreuses revendications seront mises en avant pour défendre le droit des femmes, à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, mais bien évidemment le droit à l'accès à une contraception libre et gratuite, tout comme le droit à l'interruption volontaire de grossesse, fera partie de ces droits qu'il faudra défendre et qu'il faudra mettre en avant. Voilà ce qu'on voulait dire sur cette défense de l'IVG en parallèle, en miroir à cette entrée dans la Constitution de cette liberté, du coup, qui est pourtant un des droits fondamentaux et essentiels du droit des femmes. Voilà, on faisait un petit écho à cette journée internationale du droit des femmes. Peut-être avant de rappeler, avant la fin de l'émission, les rendez-vous importants de cette journée du 8 mars, un petit point international avec un petit tour du côté de la Russie où le droit des femmes et le droit des minorités de genre est fortement mis à mal, que ça soit par le régime politique comme par la situation de guerre.
C'est sûr que c'est pas le meilleur pays pour ça, mais là je vais vous parler d'autre chose. Je vous parlais d'Alexei Navalny, hein, l'opposant russe qui est mort récemment dans une prison de Sibérie. Bien, le groupe anarcho-syndicaliste russe CRAS, la Confédération des anarcho-syndicalistes révolutionnaires, explique pourquoi il ne participe pas aux manifestations organisées par les participants d'Alexei Navalny. L'idée de ce texte, en gros, c'est qu'idéaliser Navalny pour combattre Poutine en Russie serait un peu comme idéaliser Fillon en France pour combattre Le Pen. Donc voici un extrait. Nous, anarchistes et anarcho-syndicalistes, considérons qu'il est tout à fait inacceptable de participer aux manifestations politiques organisées par les partisans du populiste de droite Navalny, tristement célèbre pour ses déclarations ouvertement nationalistes, anti-immigrés, anti-caucasiennes et antisémites. Marcher dans les rangs des manifestations qu'ils ont convoquées signifierait, quelles que soient les excuses ou les explications, suivre l'une des bandes politiques qui mènent une lutte sale et sans principe pour le pouvoir. En tant qu'anarchistes, nous pensons que le régime autoritaire actuel du Kremlin, qui a succédé à la clique néolibérale d'Eltsine, et le groupe opposé dirigé par Navalny, qui cherche maintenant à prendre la tête de toute la masse des mécontents, ne sont tous que des porte-paroles, que les porte-paroles des intérêts des véritables dirigeants du pays, l'oligarchie dominante et son talon de fer. Soutenir l'un ou l'autre de ces camps est en totale contradiction avec nos convictions anarchistes et notre objectif de révolution sociale. La participation à la lutte pour le pouvoir entre divers partis, coalitions et cliques et le transfert du mécontentement social plus que justifié du peuple dans le canal pourri de la politique politicienne ne font que détourner la classe ouvrière de la lutte pour ses véritables intérêts sociaux, de l'éveil de la connaissance, de la conscience de la classe ouvrière et en fin de compte de la libération sociale et personnelle. Nous, anarchistes, sommes pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers anarchistes, radicaux de gauche et sociaux qui croupissent aujourd'hui dans les cachots de l'oligarchie. Mais nous sommes convaincus qu'un tel résultat doit être atteint par nous-mêmes sans nous transformer en véritables serviteurs volontaires ou involontaires de certains prétendants étrangers au pouvoir politique dans le but de poursuivre la même politique antisociale et néolibérale dans l'intérêt du capital. Nous ne pouvons pas nous battre aux côtés de ceux qui n'ont pas interféré avec la privatisation totale et la destruction des soins de santé et de l'éducation, qui ne se sont pas non plus opposés à la réforme anti-humaine des pensions, qui ont soutenu l'année dernière l'introduction d'un système terroriste universel de surveillance et d'assignation à résidence sous prétexte de lutter contre l'épidémie. Pour nous, il n'y a pas de moindre mal, nous ne faisons pas alliance avec l'ennemi, même si il est l'ennemi de notre ennemi.
Voilà, déclaration fort intéressante des camarades anarchistes russes. Là aussi, il ne faut pas mythifier, certes, l'assassinat de Navalny est le reflet de ce qu'est aujourd'hui le régime autoritaire russe, mais ce n'était certainement pas, il ne faut pas mythifier et en faire un martyr, comme c'est si bien expliqué. Ce n'était certainement pas une voie d'émancipation pour la grande masse de la population russe qui subit le régime politique comme elle subit l'état de guerre. C'était avec cette page internationale qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission du groupe local de Lyon, de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Avant de se séparer, on va rappeler quand même les rendez-vous.
Oui, pour rappel, le vendredi 8 mars, après la manif, il y aura le soir une disco-vente aux enchères des Dynastites. Elles organisent donc une vente aux enchères de vinyle, des bons et des mauvais. Hein. Je vous rappelle que les mauvais, par exemple Michel Sardou, vous pouvez les acheter pour les détruire sur scène devant le public. Tout le monde sera très content, je pense, enfin en tout cas toutes les personnes présentes. C'est au Live Station, ça commence à 20h30 et vous pouvez arriver un peu plus tôt, mais réservez quand même une table dans le doute pour être sûr d'avoir une place. Le lendemain, samedi 9 à l'Illégalité, c'est une rencontre, c'est une journée de rencontre sur les luttes des femmes exilées. Elle est organisée à la mémoire de Blessing Matthews, une femme nigériane décédée poursuivie par la police alors qu'elle tentait de rejoindre Briançon. À 14h, donc une projection et une discussion autour du meurtre de Blessing Matthews. On sera en présence d'une chercheuse qui a participé à l'enquête qui a fait suite à son décès. Enquête, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais qui bien évidemment n'a rien donné et a été classée sans suite. À 17h ensuite, une discussion autour des luttes des femmes exilées face aux violences de l'État avec trois collectifs, le collectif Solidarité entre femmes à la rue, la cantine des femmes et l'atelier des femmes fortes, et le soir un DJ set de Mimi Génial. Et puisqu'on parle de DJ set, il y en aura tout un paquet un peu plus tard dans la soirée au Grand Zéro. Des DJ sets à partir de 21h qui, eux, seront au profit des mineurs isolés de Lyon.
Voilà, et puis tous ces rendez-vous, vous l'avez compris, ce vendredi 8 mars, c'est dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et on l'a dit, cette année, dynamique intersyndicale pour appeler à une grève féministe pour dénoncer l'exploitation des femmes au travail, travail salarié, au travail invisible, travail domestique. Du coup, manifestation dans le cadre de cette journée de cette grève féministe, 14h, place Jean Masset. Et on vous le rappelle, vous pouvez même venir dès 12h30, puisqu'il y a un pique-nique féministe et un atelier pancarte qui sera organisé. Voilà, c'est avec ces bonnes paroles qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire, l'UCL. On se retrouve donc bien sûr vendredi dans la rue, et puis à l'antenne de ce 102.2 de Radio Canu, comme tous les mercredis soirs, mercredi prochain à 20h.
Voilà, bonne semaine, et puis à après-demain dans la rue, place Jean Massé.
C'était Idées Noires, et puis moi je vous retrouve juste après notre générique pour l'émission suivante, pour la bande-son Nos Révoltes. Come on, come on, come on, come on, come on.
que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever.